Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. Une émission consacrée à la musique de film, comme le savent nos fidèles, cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent un peu partout. Maintenant, elles bougent, les petites images. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons nous intéresser aux adaptations à l'écran. Aux adaptations françaises à l'écran, en l'espèce, des romans de Georges Simenon, l'un des grands monstres de la littérature du XXe siècle. Georges Simenon, né, comme nul ne l'ignore, en Belgique, à Liège, le 12 février 1903, est mort à Lausanne, en Suisse, on pourrait le deviner, le 4 septembre 1989, au terme d'une vie riche et mouvementée, puisque d'abord journaliste, Simenon fut ensuite auteur sous différents pseudonymes, et il créa notamment, on va y revenir dans le cours de cette émission, en 1931, le célèbre personnage du commissaire Maigret. 200 romans, 155 nouvelles, 25 textes autobiographiques, bref, un monstre, je vous le dis, un monstre qui évidemment ne pouvait qu'intéresser le cinéma par la pertinence de ses histoires, toujours largement teintées de crimes et délits divers. Et nous allons entamer cette émission en écoutant un extrait de la bande originale d'un film de Jean-Pierre Melville, tourné en 1962, L'aîné des fers chauds, un film qui réunissait dans les rôles principaux Jean-Paul Belmondo et Charles Vanel, alors qu'à l'origine, eh bien, c'était Alain Delon, l'autre duettiste des années 60, cinéma français, qui devait interpréter le rôle principal, et c'était un autre metteur en scène qui devait réaliser le film, Jean-Pierre Melville s'y colla et il imposa plus ou moins Jean-Paul Belmondo avec lequel il venait de collaborer dans Léo Morin, prêtre et Le Doulos. Le film se passe aux États-Unis, ce pourquoi d'ailleurs Melville aurait voulu engager Spencer Tracy dans un rôle qui finalement échut, et c'est plutôt tant mieux, à Charles Vanel. Plutôt tant mieux, car je ne suis pas sûr que Jean-Paul Belmondo et Spencer Tracy auraient été un duo relativement probable. À leur côté, on retrouvait les délicieuses Michel Mercier et Stefania Sandrelli, alors au sommet de leur carrière et de leur beauté, bien sûr. Le tout se passe largement aux États-Unis, mais fut tourné fort prosaïquement et entièrement en France, budget sans doute aidant. La musique de ce film, elle était signée de Georges Delerue, compositeur bien connu des aficionados de 24 notes secondes. Vous allez forcément reconnaître son style si particulier. L'aîné des fers chauds, Jean-Pierre Melville, 1962. Thank you. presque facile à reconnaître, hein, un extrait de la bande originale de L'Aîné des Fers Chauds, signé par Georges Delerue. Un film de Jean-Pierre Melville adapté d'un roman de Georges Simenon auquel nous consacrons cette émission de ce jour. Georges Simenon, donc, qui a connu une longue et prolifique carrière littéraire et aussi en parallèle une longue et prolifique carrière cinématographique commencée dès les années 30 avec notamment Julien Duvivier adaptant La tête d'un homme quelque part au début du parlant. Mais ce n'est pas dans ces eaux-là que nous allons pêcher notre film suivant, puisque Le Baron de l'Écluse, tourné quelque part dans les années 60, j'avoue que ma petite fiche, honte à moi, n'était là encore une adaptation d'une nouvelle de Simenon adaptée du regretté Maurice Druon, mais si, celui des Rois Maudits, et avec une réalisation de Jean Delannoy, un réalisateur qu'on a parfois connu, mieux inspiré. En fait, il y avait deux choses importantes dans ce film, dont j'ai quand même oublié de vous citer le titre, ça s'appelait Le Baron de l'Écluse. Il y avait deux choses importantes. D'abord, le fait que le personnage principal, le fameux Baron des Argentés, alias Jérôme Napoléon Antoine, excusez du peu, était interprété par Jean Gabin, le Jean Gabin bien connu d'après-guerre, ou revenu de ses rôles de héros romantique et tragique des années 30-40, celle du réalisme poétique, qui eh bien, était devenu, il faut bien le dire, un bourgeois un peu râleur, comme on, après tout, on l'aimait aussi comme cela. Et dans la bouche de Jean Gabin, eh bien, il y avait aussi, c'était ça le deuxième atout du film, les mots de Michel Audiard. Il y a eu plusieurs films Audiard-Gabin et l'un comme l'autre semblait avoir trouvé une sorte d'alter ego, râleur, vaguement anarchiste, mais de droite quand même. Allez, deux petites pour la route avant d'écouter un extrait de la bande originale de ce film. La première me paraît toujours d'actualité. Détrousser les petits épargnants est le fait d'adolescents crapuleux ou de ministres chevronnés. La deuxième, je l'aime pas mal non plus. Avec toi, on prend toujours des allées simples et des retours compliqués. Allez, un extrait de la bande originale du Baron de l'Écluse. De l'Écluse, c'est mieux. Une musique signée du rare Jean Prodomides, Divergence FM. Tout le charme musical de la qualité française, bientôt vilipendé par les jeunes turcs de la nouvelle vague. Un extrait signé Jean Prodomides de la bande originale du Baron de l'Écluse, Jean Gabin dans le rôle principal d'après une nouvelle de Georges Simenon. Georges Simenon, notre héros du jour, qui fut aussi et très largement connu pour avoir écrit entre 1931 et 1972 près de 80 romans mettant en scène le commissaire Maigret, son héros absolument favori. Et nous allons maintenant écouter un extrait de la bande originale, d'une adaptation, vous l'avez compris, d'un roman mettant en scène Maigret et l'affaire Saint-Fiacre. Alors j'aime beaucoup ma petite fiche qui précise que l'affaire Saint-Fiacre était parue en 1932. Et en 1932, alors que Georges Simenon avait créé le personnage en 1931, eh bien c'était déjà le 13e roman mettant en scène le commissaire Maigret. Quand on le dit que Georges Simenon était un polygraphe fou, ma foi, on n'est pas loin de la vérité. En 1959, eh bien Jean Delannoy, déjà cité, et Jean Gabin, déjà cité aussi, retournèrent devant les caméras pour poursuivre un succès de 1958, là encore avec les mêmes, Maigret tend un piège. Ni l'un ni l'autre, précisa-t-il dans ses mémoires, Jean Delannoy ne voulait refaire un film adapté de Maigret, mais ma foi, au cinéma, le succès commande et les artistes s'exécutent. Donc ce duo reprit le chemin des studios, on pourrait même dire un quatuor, puisque Jean Delannoy était derrière la caméra à nouveau, Jean Prodomides était derrière la baguette à nouveau aussi, et Michel Audiard était là encore, bien sûr, pour ce solide drame qui se situait quelque part dans mes terres natales, du côté de Moulins, Allier, là, au centre. Quelque part, aux côtés de Jean Gabin, ou plutôt derrière Jean Gabin, il y avait Michel Auclair, Valentine Tessier, Robert Hirsch, Paul Francoeur, Michel Vitold, de tout nom, dit avec délice comme étant ceux des grands seconds rôles du cinéma français des années 50. Le tout n'était peut-être pas d'une folle originalité, ma foi, c'était une murder mystery façon Agatha Christie, mais à la sauce française. Mais c'était plutôt bienvenu, je ne suis pas sûr que ça vieillisse aussi bien que le 5%, c'est du vin à côté de Moulins. Allez, on écoute quand même un extrait de la bande originale. Évidemment qu'on en écoute un extrait de la bande originale. Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, Jean Delannoy, 1959, dans 24 notes, seconde. Thank you. Voilà un extrait de la bande originale de Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, un film de Jean Delannoy tourné en 1959. Maigret qui eut évidemment bien des incarnations à l'écran, Jean Gabin, on vient de le voir avec ce film. Il y eut aussi au cinéma Charlottetown, il y eut Harry Bore, déjà cité à propos de La tête d'un homme, bien d'autres encore, même dans le cinéma américain. Il y eut même Charlottetown et quelques autres, je ne sais trop. Quel est le préféré des amateurs de Simenon ? D'aucuns en tiennent des pervers, sans doute pour Jean-Richard. Personnellement, je serais plutôt Bruno Kremer comme genre, et nous y reviendrons à la fin de cette émission. Et les aficionados de Georges Simenon, aficionado est sans doute un mot bien faible, note que l'affaire Saint-Fiacre est l'un des très rares romans mettant en scène Maigret dans lequel on parle des origines de Maigret. Maigret avant qu'il ne devienne Maigret. De la même manière, qu'on sait très peu de choses sur Madame Maigret, on sait à peu près autant de choses sur Madame Maigret que sur Madame Colombo, c'est dire, eh bien, le personnage s'est peu livré, au contraire de son auteur, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, Georges Simenon a signé pas moins de 25 textes autobiographiques. Il est vrai que sa vie fut complexe et largement tragique. On va écouter maintenant un nouvel extrait. Alors, je suis désolé, il y a encore Jean Gabin dans le coup, mais c'est comme ça, c'est les années 50, celle de la qualité française, bientôt balayée ou presque par la nouvelle vague. Et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film qui était justement un choc entre la vieille qualité française, incarnée par Jean Gabin ou par Edwige Feuillère, et le nouveau cinéma français, peut-être pas tout à fait la nouvelle vague quand même, incarnée par Bébé. Eh oui, Brigitte Bardot, Jean Gabin, c'était en 1958. L'affiche d'En cas de malheur, d'après le roman de Georges Simenon, ça vous l'avez compris, adapté par Jean Orange et Pierre Bost, deux vieux routiers, c'est mieux, ou Dieu vieux routier, comme vous voulez, du cinéma français de l'époque, adaptant donc un roman relativement scandaleux où l'on voit une petite cambrioleuse, alias Yvette Maudet, pardon, alias Brigitte Bardot, se faire piquer et donc prendre comme avocat Maître André Gobillot, alias Jean Gabin. Vous avez certainement compris la suite, ça s'appelle Le démon de midi. Il paraît qu'entre 50 et 60 ans, c'est fort répandu dans la gente masculine. Et en 1958, eh bien, on s'étonnait d'un rien et d'aucuns se souviennent de ce plan fameux où l'on voit Bébé relever ses jupes pour quelque part montrer à Jean Gabin quel sera son moyen de paiement de sa prestigieuse prestation. On la voit aussi, très fugitivement, se balader nue quelque part dans l'appartement du susdit Jean Gabin. Bref, maintenant des audaces qui font rire à l'époque, quasiment un scandale, il faut dire, que Bébé, eh bien, venait d'exploser dans « Et Dieu créa la femme ». Elle emportait tout sur son passage. Elle emportait même Jean Gabin dans le film. Il faut le reconnaître qui était dans son rôle. Rien de plus, rien de moins. La musique, elle était signée de René Cloérec, un compositeur peu connu, mais le compositeur favori de Claude Autant-Lara. Vous ai-je dit que Claude Autant-Lara était le réalisateur de ce film ? Non, pas encore ? Voilà qui est fait. Allez, place à la musique. En cas de malheur, Claude Autant-Lara. 24 notes, secondes. Une musique bien sirupeuse pour un film bien scandaleux, en tout cas pour l'époque. Un film de Claude Autant-Lara qui n'en était pas à son premier scandale, ni à son dernier d'ailleurs. En cas de malheur avec Jean Gabin, Brigitte Bardot et Edwige Feuillère dans les rôles principaux. Brigitte Bardot, Edwige Feuillère, l'un était la femme, l'autre la maîtresse. Je vous laisse deviner, mais je suis goujat, laquelle était laquelle. Il y avait aussi, mais alors là c'est vraiment pour l'anecdote, Franco Interleghi dans le rôle de l'amant de Brigitte Bardot, alias Yvette Maudet. Yvette Maudet, en voilà un nom qu'il fait années 60 aussi. Franco Interleghi qu'on avait vu notamment chez Visconti, Chiuccia et chez Fellini, Il Vitelloni. Et une fois n'est pas coutume, eh bien on va terminer cette émission avec un long extrait d'une partition suite. Alors j'ai évoqué tout à l'heure Bruno Kremer et aussi, une fois n'est pas coutume, on va écouter un large extrait de là, ou plutôt des bandes originales de la série des Maigret, tournée pour la télévision avec Bruno Kremer dans le rôle principal. Ma foi, Bruno Kremer fait partie de ces grands acteurs des années 70-80, un homme au charisme indéniable et jamais démenti. Et personnellement, j'avoue que c'est mon Maigret de cœur, et les adaptations télévisuelles des romans de Georges Simenon, eh bien pour de la télé, c'est pas si malvenu, ou plutôt ce n'était pas si malvenu. Et la musique, eh bien il en est de même. Il en est de même. Au ce jour, nous aurons été très compositeurs français dans 24 notes secondes. Ce n'est pas si fréquent, donc on peut s'en féliciter. Du coup, un large extrait de la bande originale de cette série télévisée. La musique, elle est signée de Laurent Petit Girard. Il me fallait d'autant plus le citer que l'homme est aussi un découvreur de musique de films d'autres personnes. Il a organisé de nombreux concerts de musique de films d'autres compositeurs. Un grand compositeur, un grand découvreur, c'est tout à son honneur. Donc une belle conclusion pour cette émission de ce jour. Maigret, Laurent Petit Girard, 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you and bye bye.